Chapitre 8 L'inquiétude. Onésime Coche s'éveilla vers 10h30, la tête lourde et les membres reposés. Durant la nuit, tant de rêves fantastiques avaient traversé son sommeil que ses idées avaient peine à se réunir. Il s'étonna d'abord de se trouver dans cette chambre qu'il n'avait jamais vue et d'être tout habillé sur son lit. Il faisait froid. Autour de lui, tout était triste, inconfortable et sale. Des chiffons froissés dépassaient la trappe rouillée à la cheminée. Au mur, le papier clair à fleurs rosées et bleues se moirait de taches d'humidité ou de graisse. Le lit était douteux. Le couvre-pied rapiécé laissait passer par endroits des flocons d'étoupe jaunâtre et un porte-manteau planté de côté pendait une vieille jupe de femme. Ce fut seulement après avoir regardé pendant un moment tout cela que le souvenir de son retour chez lui, de sa course à travers Paris au hasard des boulevards et des rues, et de sa certitude d'avoir été suivi, au moins depuis le Luxembourg, lui revint. Il essaya de raisonner froidement. Il avait été suivi, était-ce bien vraisemblable ? Pourquoi choisir l'hypothèse la plus compliquée, alors qu'il était si simple et si naturel de croire que l'homme qu'il avait croisé au haut du boulevard Saint-Michel était un paisible passant ? Cet homme m'avait exactement suivi sa route, et après, il n'était pas dans un quartier perdu, en rase campagne. L'homme pouvait fort bien rentrer chez lui, et pourtant il n'avait pu se défendre de frissonner quand leurs regards s'étaient croisés. Son angoisse, un instant apaisée, le reprit. Il sentit le froid et la tristesse morne de cette chambre de rencontre, décor de drames pauvres, taudis où avaient défilé sans doute toutes les laideurs et toutes les misères des hommes. Il avait dormi, son sommeil d'homme libre, innocent, sur ce lit défoncé où peut-être des escarpes des criminels avaient passé la nuit, accroupi, l'œil grand ouvert dans l'obscurité, l'oreille au guet, les doigts crispés sur le couteau. Ces terreurs, jadis obscures, vagues dans son esprit, lui devenaient familières. Il en comprenait la torture, en excusait l'exaspération, et sentait comment le criminel, transformé soudain en bête aux abois, se ramasse dans son coin pour faire tête à ceux qui le poursuivent, et se jette en avant, non pour vendre chèrement sa vie, mais pour la seule joie féroce d'apaiser dans le meurtre l'épouvante des nuits sans fin. Le drame terrible de la capture se jouait dans son imagination. Il se voyait, lui, terrassé, empoigné par des mains brutales. Il sentait des souffles chauds passer sur son visage, et tout cela faisait éclore en lui une sorte d'héroïsme de barrière. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et, sans oser soulever le rideau, regarda la rue. Sur le trottoir, un homme allait et venait à pas lents. Croyant que cet homme levait les yeux vers lui, il recula sans cesse d'observer. Pour la seconde fois, l'homme leva les yeux. Alors une sueur glacée descendit entre ses épaules. Le doute n'était plus possible. Cet homme attendait, guettait quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était lui. Il voulut chasser cette pensée absurde, mais il ne pouvait plus en détacher son esprit. Et de nouveau, les visions de lutte qu'il avait assaillies tout à l'heure s'étalèrent devant lui. À l'heure des pires dangers, l'homme, sentant sa faiblesse, redevient enfant. L'état du premier âge laisse en nous une trace si profonde qu'elle reparaît aussitôt que notre raison, notre intelligence acquise, fléchisse. La raison de Coche, épuisée par les transes de la nuit, se troublait insensiblement. Sa crainte se muait en une sorte d'hébétement si complet qu'il en arrivait à croire que tout n'était qu'illusion, fantaisie. Et dans cette minute poignante, il se mit à jouer involontairement au coupable, comme lorsqu'il était petit. Il jouait tout seul, à la guerre, à la chasse, à la fois général et soldat, chasseur et gibier, éprouvant tour à tour toutes les émotions, s'effrayant du bruit de sa voix et de la fureur de son geste, mimant pour un spectateur imaginaire qui était lui, les drames gigantesques et insoupçonnés éclos dans son âme d'enfant. Dans ce jeu sinistre, il était naturellement le coupable. Il se savait surveillé du dehors. Devant sa maison, des hommes montaient la garde. D'autres se glissaient dans l'escalier. Il entendait les marches craquer lentement sous leurs pas. Le bruit cessait, puis reprenait. Un murmure étouffé de voix venait jusqu'à lui. Il distinguait bientôt des mots, des bribes de phrases. « Il y est! Faites attention! Pas de bruit !» Et puis, plus rien. Que faire? Il était cerné de toutes parts. Sous ses fenêtres, des espions étaient postés. De ce côté, la fuite était impossible. Près de la cheminée, une porte communiquant avec une chambre voisine était fermée par deux crampons de fer. Jamais il n'aurait le temps de les faire sauter. Alors, quoi? Attendre que la porte de ce palier s'ouvrit et foncer la tête basse sur les assaillants? Oui, c'était bien cela. Il prit son revolver, retira la baguette de sûreté et, accroupi dans l'angle de la fenêtre, attendit. Les voix, rêve, jeu, réalité, étaient plus distinctes. L'une disait, au moindre geste, c'est convenu. Le silence se fit. Pas une voiture ne passait dans la rue. La vie semblait s'être arrêtée soudainement. D'une pièce voisine arrivait net et cassant le tic-tac de réveil matin. Tout à coup, on frappa à la porte. La chose parut toute naturelle à Coche. Non que l'idée lui vint d'un seul instant que c'était le garçon entrant pour le service. N'était-il pas dans son jeu inconscient, traqué par la police? Elle était là, derrière cette porte. La logique voulait qu'il ne répondît pas. Il se tint quoi et assura son revolver. On frappa une seconde fois. Même silence. Soudain, la porte s'ouvrit. Il s'attendait si bien à la voir s'effondrer sous une poussée violente qu'il demeura stupéfait, oubliant que la veille, il avait omis de la fermer. À peine eut-il le temps de braquer son revolver, déjà des mains s'abattaient sur lui, maintenant ses épaules, tordant ses poignets. La surprise, la douleur furent si fortes qu'il lâcha son arme et se laissa passer les poucettes sans résistance. Alors seulement il comprit ce qui venait de se passer, que le jeu était devenu une réalité et qu'il était pris. Il restait debout, arraché avec une telle violence à son espèce de rêve, que les événements les plus extraordinaires ne parvenaient plus à l'étonner. Peu à peu, avec la notion exacte des choses, le sang-froid lui revint. Il entendit la voix narquoise du commissaire qui disait « Mes compliments, monsieur Coche !» Et cette voix suffit pour lui rendre le sentiment de la réalité. Or, par un revirement étrange, il éprouva un soulagement réel. Ce qu'il redoutait tant depuis 4 jours s'était produit, il était pris. Il allait donc pouvoir se reposer, dormir, innocent, le sommeil paisible de ceux qui n'ont rien à se reprocher, abaissent leurs paupières sur des yeux où nulle vision de crime n'a passé. Enfin, et pour la première fois peut-être depuis la nuit du 13, il eut la notion exacte qu'il atteignait son but et que son reportage triomphal commençait. Ses traits se détendirent insensiblement. Il prit une respiration large, tranquille, et sourit avec un peu d'ironie méprisante. Quand on lui fouillait les pieds à la tête et qu'on eut retourné le lit, les matelas, les draps et les oreillers, le commissaire dit « En route !»« Pardon, » fit Coche, et il se réjouit de réentendre le son de sa voix. « Serait-il indiscret de vous demander, monsieur le commissaire, ce que signifie tout cela ?»« Vous ne vous en doutez pas un peu ?»« J'entends bien que vos hommes se sont jetés sur moi, qu'ils m'ont terrassé, ligoté. J'ajoute même qu'ils ont serré les poussettes plus que leur raison, mais je ne sais pas très exactement pourquoi ces violences. J'imagine qu'on voudra bien me renseigner sur ce point. » J'ai beau chercher dans ma mémoire, je n'y trouve pas le moindre souvenir d'un délit de presse, et en aurais-je commis un, vous ne m'appréhendriez pas ainsi, escorté de 10 agents de la sûreté, dont monsieur, ajouta-t-il en désignant Javel, qui a eu l'attention charmante de me tenir compagnie depuis hier soir. Il avait repris une telle assurance qu'un instant, Javel, le commissaire et tous les autres se dirent « C'est pas possible, nous nous sommes trompés. » Mais une réflexion identique leur vint. « Pourquoi, s'il n'a rien sur la conscience, nous a-t-il reçu le revolver au poing ?» Réflexion qui se doubla pour le commissaire et pour Javel d'une question autrement plus précise et plus grave. Comment expliquer qu'un de ces bouchons de manchette était trouvé près du cadavre? Cela suffit à leur ôter jusqu'à l'ombre d'un doute. Coche, le cabriolet au poignet, descendit l'escalier entre deux inspecteurs. L'hôtelier, debout sur le pas de sa porte, grogna « Eh, avec ça, j'y suis de ma nuit de chambre !» « Mon pauvre homme, fit Coche, vous m'envoyez tout à fait désolé, mais ces messieurs ont cru devoir s'emparer de mon porte-monnaie. En attendant qu'ils me le rendent, adressez-vous à eux. » On le poussa dans une voiture à galerie. En traversant la foule amassée sur son passage, il eut un mouvement de honte. Quand la voiture se mit en marche, une voix stridente s'éleva. « À bord, à l'assassin, à mort !» Dans une foule, il se trouve toujours quelqu'un pour être au courant de tout. Cette fois encore, le secret avait transpiré. Aussitôt, de nouvelles huées partirent en fusée, féroces, haletantes, et un grondement monta menaçant « À mort, à mort !» En un clin d'œil, la voiture fut entourée des hommes, des femmes, des enfants, accrochés au ressort, cramponnés à la tête des chevaux, hurlaient « Lâchez-le, qu'on le tue, à mort !» Un inspecteur se pencha vivement à la portière et cria au cocher « Mais qu'est-ce que vous attendez, au trône de Dieu ?» Des agents accourus dégagèrent enfin le fiacre qui s'ébranla parmi les vociférations. Les plus acharnés se mirent à courir derrière, s'essoufflant à clamer « À mort, à la guillotine !» Les gens qui, sur le pas de leur porte, voyaient passer cette voiture escortée d'argent cycliste, se joignaient pendant quelques mètres au cortège, criant aussi « À mort, à mort !» Enfin, à la hauteur de la rue d'Alésia, un encombrement de la chaussée où deux tramways Montrouge Gare de l'Est arrivait en sens inverse, permit au cocher de prendre un peu d'avance et de semer les braillards. Enfoncé dans son coin, Coche n'avait pas ouvert la bouche depuis le départ. Tout au plus avait-il dit un timide merci quand un des inspecteurs avait baissé les stores pour le soustraire à la curiosité du public. Les cris, les menaces de tous ces gens l'avaient d'abord effrayé, puis écœuré. Ainsi, c'était là ce peuple de Paris le plus intelligent du monde. Dans ce pays, berceau de toutes les libertés, dans cette ville d'où s'étaient levées toutes les paroles de justice et de raison, voilà de quelle haine aveugle on entourait un homme dont on ne savait rien que ceci, qu'il était traîné en prison. Voilà de quelles imprécations effroyables on l'accablait, parce qu'une voix, une seule voix, avait crié « À mort !» La terrible partie qu'il avait engagée ne lui était fait sentir et comprendre que cela, il n'eût rien regretté des angoisses traversées et des vexations à subir. Les choses maintenant allaient prendre une marche normale. L'aventure prodigieuse et paradoxale commençait de la souris jouant avec le chat. Son ironie facile, un instant retrouvée après son arrestation, était tombée. La justice lui apparaissait comme une machine infiniment plus complexe qu'il n'avait cru d'abord. À côté des policiers, des magistrats et des juges, restait cette chose obscure et formidable, le public. Certes, en principe, la voix populaire s'éteignait aux portes du prétoire. Certes, les juges n'avaient pour les guider que leur connaissance des faits et appuyée sur leur science des lois. Mais quel homme oserait se dire assez fort, assez juste, assez grand, pour se soustraire totalement à la volonté impérieuse des foules? Un vrai coupable a presque autant à redouter le verdict du peuple que celui de ses juges. Les peines, quoi qu'on dise, varient avec les mouvements d'opinion. Tel crime aujourd'hui, puni de quelques mois de prison, ne conduisait-il pas autrefois son auteur aux galères? Damiens, roué vif pour avoir porté à Louis XV un coup de canif insignifiant, aurait-il été condamné au XXe siècle à plus de 2 ans de prison pour insulte envers le chef de l'État? Le premier interrogatoire sommaire terminé, Coche fut enfermé dans une petite cellule du poste. Derrière la porte, on entendait causer les agents, et de temps en temps, l'un d'eux venait jeter un coup d'œil sur lui par un Judas. Vers midi, on lui demanda s'il avait faim. Il répondit « oui ». Mais il avait la gorge serrée, et la seule pensée de la nourriture lui soulevait le cœur. Pourtant, pour ne pas avoir l'air trop ému, quand on lui tendit la carte d'un restaurant voisin, il fit son menu, au hasard d'ailleurs. On lui apporta sa viande toute découpée et ses légumes dans de petites assiettes épaisses et lourdes. À force d'avoir été heurté et lavé, leur émail avait éclaté par endroits et l'eau grasse, s'infiltrant entre les fentes, y avait étendu des taches grises craquelées. Il essaya de manger, ne put avaler une bouchée, mais il but avidement sa bouteille de vin et sa carafe d'eau. Après quoi, il se mit à aller et venir dans sa cellule, pris d'un désir de mouvement, d'air, de liberté. Sauf les menottes qui lui avaient serré un peu les pouces, il n'avait pas été maltraité. Il avait cru les agents plus brutaux, plus revêches, et s'était déjà préparé à parler haut au nom de son droit d'homme innocent et devant être traité comme tel, tant que les tribunaux ne l'ont pas frappé. Il s'était imaginé surtout que lui-même serait bien différent de ce qu'il avait été. Au cours des derniers jours écoulés, quand il réfléchissait à ce que serait son attitude après son arrestation, il croyait conserver sa vigueur et sa gaieté. Quelques heures de prison avaient suffi à modifier ses pensées. Peu à peu, l'exceptionnelle gravité de son acte commençait à lui apparaître, et avant même que d'avoir pris contact avec la justice, il s'effrayait de tout ce qui l'entourait. Cependant, toutes ses pensées avaient une conclusion rassurante. « Oh, j'en aurai assez, je ferai cesser la comédie, et voilà. » Avec le jour tombant, ses idées prirent un tour plus triste. Rien n'évoque mieux les douceurs de l'intimité, la chambre tiède où brûle la bûche silencieuse, la lampe et le grand rond étalés sur la nappe, et la tiédeur de la bonne maison, que le petit froid traître qui, le soir, se répand dans les pièces sombres où viennent mourir assourdis tous les bruits de la rue. Les agents, groupés autour d'une table, avaient allumé une mauvaise lampe, et l'odeur du pétrole se mêlait aux relents de cuir et de drap mouillé qui le gênaient depuis le matin. Pourtant, dressé sur la pointe des pieds, l'œil au Judas, il regardait avidement ces gens paisibles, accoudés dans des poses lasses, et surtout cette lampe au verre ébréché, piqué de taches rousses, mais d'où venait un peu de la clarté qui lui manquait dans sa cellule. Vers 6 heures, on ouvrit sa porte. Il crut qu'on allait l'interroger, mais un agent lui passa le cabriolet et le poussa dans le poste. Il se trouva là avec 2 pauvres diables déguenillés, un pâle voyou qui ricanait, la cigarette au coin des lèvres, et 2 filles... qui lui rappelèrent celle qu'il avait vue la nuit sur le boulevard Lannes. Un garde municipal fit défiler devant lui les prisonniers, les compta, puis un par un les fit monter dans la voiture cellulaire qui stationnait devant la porte. Coche passa le dernier et entendit un des agents dire au garde en le désignant « Tâche un peu d'ouvrir l'œil pour celui-là ». Il n'eut qu'un pas à faire pour traverser le trottoir et, machinalement, détourna la tête pour ne pas rencontrer les regards des badauds. Certes, comme il avait les mains liées, on dut l'aider à monter. On le fit entrer dans le dernier box. Il s'assit, les genoux heurtant les planches. La porte se referma sur lui et la voiture, au trot de ses 2 vieux chevaux, se mit en route, dansant sur le pavé. Cette fois, la grande épreuve commençait. Elle s'annonçait dure, mais quelle joie ce serait pour lui de se jouer des magistrats de la police, de les surprendre en flagrant délit d'erreur ou de partialité, et de leur arracher enfin, sans qu'en aucun moment il puisse se défier, ces interviews uniques qui le classeraient en tête des plus ingénieux parmi les journalistes. Il se disait cela plutôt pour se donner du courage que par conviction, conservant, il est vrai, l'espoir de retrouver sa bonne humeur et la lucidité de son esprit après une nuit de repos. Le lendemain et le jour qui suivit, il ne vit que ses gardiens. Bien que la solitude lui pesât, il se sentit d'abord moins angoissé qu'il ne l'avait été lorsqu'il se promenait libre dans Paris. Tout le jour, il restait étendu sur son lit. La nuit, il dormait assez bien, gêné seulement par la lumière de la lampe électrique placée exactement au-dessus de sa tête. Puis, peu à peu, la surveillance constante dont il était l'objet l'irrita. Après avoir redouté la solitude, il la souhaita complète. La pensée que tous ses gestes étaient épiés, tous ses mouvements suivis, lui devint odieuse, et un doute, repoussé d'abord, puis d'heure en heure plus poignant, grandit en lui. Pourquoi, sur quel indice l'avait-on arrêté? Certes, il s'en doutait, mais jusqu'ici personne ne le lui avait déclaré d'une façon formelle, si bien qu'il se trouvait emprisonné au secret, sans connaître officiellement la raison de son arrestation. Si pourtant il était accusé d'un autre crime, 20 histoires de forçats reconnus innocents dans la suite venaient à son esprit. Il se sentait armé suffisamment pour se défendre contre une accusation dont il avait lui-même établi toutes les bases, mais non contre les charges que le seul hasard pouvait avoir amassées sur lui. Quand son esprit parvenait à s'affranchir de cette angoisse, une autre question se posait. Comment avait-il pu être pris aussi vite? Quelle imprudence avait mis la sûreté sur sa trace? Mais qu'avait-on trouvé qui permit de le désigner formellement? Tout ce qu'il avait placé à dessein dans la chambre du crime, le bouton de manchette aussi bien que les bouts d'enveloppe, était destiné à fortifier, à appuyer des présomptions. Mais il ne trouvait rien dans son attitude qui fût capable d'expliquer comment on avait été amené à chercher de son côté. Il se demandait si, dès la première heure, des forces inconnues ne l'avaient pas environné, s'il n'avait pas été suivi la nuit même du crime. Il essayait de se remémorer tous les visages entrevus dans la rue, au restaurant, à l'hôtel. Aucun ne répondait à l'idée qu'il se faisait de l'être mystérieux qui, durant 4 jours, aurait évolué dans son ombre. Et là encore, l'inconnu l'épouvantait. D'invraisemblable qu'elle était d'abord, cette pensée lui sembla possible, et de possible, elle lui sembla probable, certaine. Ainsi, pensait-il, j'ai vécu 4 jours accompagné d'un être qui ne m'a pas quitté et dont les regards pesant sur moi n'ont peut-être dicté tous mes gestes. Qui sait ? Peut-être aussi cet être fut-il mon maître avant mon entrée dans la maison du crime. Si pourtant il m'avait suggéré l'idée de la comédie que j'ai jouée et que je joue encore, je serais en son pouvoir, je serais sa chose. Il me dicterait mes actes, mes paroles. À travers les murs de ma prison, il substituerait sa volonté à la mienne, et moi, vivant, agissant et pensant, je ne serais plus qu'une loque, avec la forme humaine et l'apparence de la vie, l'apparence de la volonté. Alors, s'il lui plaisait demain dans 1 heure de me faire accuser d'un crime que je n'ai pas commis et d'effacer de ma mémoire les détails précis de cette nuit, j'obéirais encore. Son exaltation croissait de minute en minute. Il se mettait à écrire nerveusement, consignant les moindres faits de sa vie, les relisant pour s'assurer qu'il s'enchaînait logiquement et qu'il retrouvait dans ses notes la trace de sa pensée propre. De tout temps, il avait redouté le merveilleux. Sans jamais parvenir à n'y pas croire, il n'osait nier l'influence des esprits, leur présence immatérielle dans le monde des vivants, leur intervention dans les événements de l'existence. Bien qu'il ne fût pas spirite, il ne s'était jamais senti le courage de rire devant une table tournante, et chaque fois qu'il avait entendu les coups mystérieux frappés par les pieds, il avait reçu la même commotion violente et frémi du même doute menaçant. Tout cela, loin de le pousser à l'aveu spontané de la supercherie, le réduisait à un état de faiblesse et de docilité prodigieux. Il se disait, si nul autre que moi n'a voulu ce qui arrive, je saurai délier ce que j'ai lié, dévider les chevaux emmêlés par mes doigts. Mais si des volontés supérieures m'ont fait agir, si je ne fus qu'un instrument entre les mains d'un autre, tout ce que je voudrais ne servirait à rien, puisqu'aussi bien je ne pourrais rien tenter qu'il ne me soit dicté par celui auquel il est impossible que je n'obéisse pas. Bientôt, il vécut dans un rêve, insensible à tout, attendant avec une patience et un fatalisme d'oriental que les événements se succédant voulussent donner corps à ses doutes. Ainsi coula en lui une sorte de bonheur vague, fais-je surtout d'indifférence. Et le troisième jour, quand il monta en voiture pour se rendre au cabinet du juge d'instruction, il eut devant ses gardiens une attitude telle qu'ils crurent un instant que le secret avait abattu sa volonté et qu'il avouerait avant un quart d'heure. Chapitre 9. L'angoisse. La légende se plaît à peindre les juges d'instruction avec une face maigre, des lèvres minces et une lueur menaçante dans les yeux. Au dire de certains, leur regard aurait on ne sait quel pouvoir fascinateur, pareil à celui des grands oiseaux de proie. Par définition, le magistrat instructeur est le premier et le plus redoutable ennemi de l'accusé. Il est, quoique la loi ait voulu garantir les prisonniers contre son caprice, son parti pris et son arbitraire, il est le maître de leur honneur, de leur liberté, de leur vie. Cynique et retors, il frôle le code sans jamais le heurter. Il n'a plus le droit de mettre le prévenu au secret, de l'interroger hors de la présence de son avocat, mais il tourne la difficulté en retardant sa comparution devant lui, en ne posant que des questions d'apparence assez simples pour ne pas éveiller ses craintes. Et si par hasard, le prévenu, devinant le piège, refuse de parler s'il n'est assisté de son défenseur, il souscrit à sa demande, se réservant de l'interroger dans la suite, de telle sorte que l'avocat ne puisse lui être d'aucun secours. Onésime Coche savait tout cela, et c'est pour en rendre compte avec toute l'exactitude possible qu'il s'était engagé dans cette affaire. Or, le juge était un petit homme tout rond, avec une figure replète, et de bons petits yeux qui semblaient rire sous les lunettes. Il fit asseoir le journaliste devant lui et fouilla dans ses dossiers tout en le regardant à la dérobée. Cet examen sournois acheva d'énerver Coche qui se mit à tapoter du bout des doigts sur le bord de son chapeau. Un homme peut dissimuler sa pensée, mentir avec les yeux, conserver malgré tout un regard et une impassibilité tels que pas un de ses muscles ne bouge, réagir même contre la rougeur qui monte à son front ou la pâleur qui l'envahit, mais ses mains ne peuvent pas, ne savent pas mentir. Nos mains ne nous appartiennent pas, notre volonté demeure sans prise sans elles. Nos mains intelligentes, sottes, câlines ou brutales, sont les traîtresses que nous portons avec nous. Et le juge ne quittait pas des yeux les mains de Coche. Quand il les vit frémir, il se dit que le moment de frapper le premier coup approchait. Quand il les vit se crisper, il releva la tête et commença l'interrogatoire par quelques formalités indispensables, nom, âge, profession, etc. Puis il reprit l'examen de ses dossiers, tandis que Coche, de plus en plus énervé, crispait les poings sur ses genoux. Alors, jugeant la minute propice, sans autre préambule, le juge lui dit « Voulez-vous m'expliquer pourquoi vous avez brusquement disparu de votre domicile et comment il se fait qu'on vous ait retrouvé il y a 3 jours dans un hôtel borgne de l'avenue d'Orléans ?» Coche s'attendait à toute autre entrée en matière, aussi ne fût-ce pas d'une voix aussi assurée qu'il l'eût souhaité, qu'il répondit « Je désirerais, avant de vous renseigner sur ce point, savoir pour quel motif je suis ici. Vous êtes ici parce que vous avez assassiné Monsieur Forget, boulevard Lannes. Coche respira. Jusqu'à cette minute, bien que la chose fût invraisemblable, il n'avait pu oublier sa première crainte. Et si j'étais accusé d'un autre crime? Il répliqua donc avec un étonnement qu'il avait trop longuement préparé pour bien le jouer. Oh, ça par exemple, c'est plus fort que tout. Et après un instant, il ajouta, d'autant que, si je saisis la nuance, vous ne dites pas que je suis accusé de ce crime, mais bien que j'en suis convaincu. Y a vraiment plaisir à causer avec vous, fit le juge. Vous comprenez à demi-mot. Ah, vous me flattez en vérité, monsieur, mais même pour répondre à votre politesse par une autre, il ne me paraît pas possible de me reconnaître coupable d'un crime que je n'ai pas commis. Je vais reprendre ma première question. Vous y répondrez, et si vous me prouvez que vous êtes innocent, je vous remets en liberté instantanément. Ah, songea Coche, tu me la donnes trop belle. Voilà qui ne fera pas mal comme début de mes articles. Et pesant tous ces mots, il répliqua, pardon, monsieur le juge, il ne faudrait pas intervertir les rôles. Ce n'est pas à moi de prouver que je suis innocent, mais à vous de prouver que je suis coupable. Cela posé et admis, je m'empresserai de répondre à toutes les questions qu'il vous plaira de me poser, pourvu qu'elles ne portent atteinte ni au repos, ni à l'honorabilité de tierce personne. Voilà, ce qui n'est pas compliqué comme moyen de défense. Vous laissez entendre que vous ne pourrez pas dire certaines choses, les choses capitales sans doute. Je ne laisse rien entendre du tout. J'ai indiqué dans ma phrase que je faisais deux réserves de principe. Vous venez d'interpréter à votre façon la seconde. Je vous rappelle la première, c'est que je ne parlerai que sous certaines conditions, comme par exemple la présence de mon avocat. C'est trop naturel et j'allais précisément vous le dire. Choisissez-vous donc un défenseur et nous remettrons la suite de l'interrogatoire à un autre jour. Mais je tiens au contraire à ce que mon interrogatoire ne soit pas retardé. Si le garde ou votre greffier veut bien descendre dans la galerie des pas perdus et me ramener le premier avocat venu, fût-il le stagiaire de la veille, je m'en contenterai. Coupable, j'essaierai de décider une sommité du barreau à prendre ma cause en main. Innocent, je demande un avocat parce que la loi exige cette formalité et que je suis respectueux de la loi, tout simplement. Le garde revint au bout d'un instant, accompagné d'un jeune avocat. Je vous remercie, maître, de vouloir bien m'assister. En reste, les choses iront très vite. Maintenant, monsieur le juge, je suis tout à fait à vos ordres. Alors, je reprends ma première question. Pourquoi avez-vous brusquement disparu de votre domicile et comment se fait-il qu'on vous ait retrouvé il y a 3 jours dans un hôtel borgne de l'avenue d'Orléans? J'ai quitté mon domicile parce qu'il ne me déplaisait pas de vivre quelque temps dehors de chez moi. Et j'ai couché avenue d'Orléans, parce que le hasard m'a conduit devant un hôtel à 1 heure où il était trop tard pour redescendre dans Paris. D'où veniez-vous? Oh, ma foi, je ne sais plus. Je vais vous le dire, moi, vous veniez de chez vous, 16 rue de Douai. Comment? Balbutia Coche stupéfait. Mais oui, de chez vous. Où vous avez changé de linge et cherché à la manchette d'une certaine chemise de soirée un bouton qui pouvait être compromettant à un moment donné. Ce bouton, vous ne l'avez pas trouvé, il n'était pas bien loin pourtant, puisque le voici. Vous le reconnaissez? Oui, murmura Coche, véritablement effrayé de la rapidité et de la précision avec laquelle on avait pris enfilature. Voudriez-vous me dire maintenant où vous avez perdu l'autre? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne sortez pas de là. Tout à l'heure, vous disiez, c'est à vous de me prouver ma culpabilité et non à moi d'établir mon innocence. Il y a des limites à tout. Cependant, cette fois encore, c'est moi qui répondrai pour vous. Vous avez perdu l'autre bouton dans la chambre où Forgette a été assassinée. On l'y a trouvé. Cela n'a rien de surprenant. J'y suis entré avec le commissaire de police. Ce bouton a pu se détacher et tomber. Oui, mais comme vous portiez une chemise de flanelle dont les boutons devaient être cousus, votre explication n'en est plus une. D'ailleurs, il est d'usage, quand on met un bouton de manchette à un poignet, de mettre l'autre à l'autre poignet. Or, je vous le répète, l'un des deux était resté après votre chemise de soirée d'où votre femme de ménage l'a détaché. Je ne m'explique pas. Ah, moi non plus, ou plutôt, je ne m'explique que trop. Ah, alors, monsieur le juge, sur un simple indice, vous me croyez coupable? Voyons, ce n'est pas possible. Un simple indice, peste, comme vous y allez. Moi, j'appelle cela une charge, et une charge terriblement grave encore. Mais j'en ai d'autres. Que diriez-vous d'une lettre oubliée par vous sur les lieux du crime? Simple indice encore. Je ne peux pas avoir oublié de lettre sur les lieux du crime. Pour l'excellente raison que je m'y suis rendu, je vous le répète, avec le commissaire de police, et que je n'y suis pas resté plus de 3 minutes, et que... Approchez-vous, approchez-vous, maître. Regardez ces bouts de papier. Placés au hasard, ils ne veulent rien dire, mais dans cet ordre, que voyez-vous? Monsieur Ési, 22 U de E V. Ce que je lis en remplaçant les lettres disparues, Monsieur Onésime, 22 rue de EV. Votre prénom, admettez-le, n'est pas si répandu que je ne puisse par une simple supposition le faire suivre de votre nom de famille, qui n'y est pas, je le reconnais. Cela me donne Monsieur Onésime Coche, 22 rue de... Ah, non, 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 je proteste de toutes mes forces contre vos procédés de déduction. Avec quelques lettres éparses, vous bâtissez un prénom et vous y ajoutez délibérément mon nom. En admettant même votre manière de voir, la suite de votre traduction détruit tout ce que le commencement voulait établir. Voilà, 22 rue de. Ou de quoi d'abord? Et puis je n'ai jamais demeuré au numéro 22. Puisqu'on vous a si bien renseigné sur ma visite à mon appartement, vous devez le savoir. Je désire que ma protestation figure au procès-verbal. Et en lui-même, il pensa, voilà un petit moyen que tu me paieras cher à ma sortie de prison. Ah, décidément, je me documente. Votre protestation figurera au procès-verbal, soyez sans crainte. Mais nous le ferons suivre de la légère observation que voici. Retournons ces bouts de papier et ces lettres éparses. Hé, vous regardez. Lisez, en toutes lettres cette fois, inconnu au 22, voire au 16. Vous demeurez 16 rue de Douai. Cette lettre, adressée par erreur au 22, vous a été retournée à votre domicile et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu confusion de numéros sur votre correspondance. Vous voyez qu'en affirmant qu'elle vous appartient, je ne me livre pas à des déductions fantaisistes. Maintenant, si vous avez quelque chose à répondre, je vous écoute. Koch baissa la tête. En déchirant l'enveloppe, il n'avait pas songé à la rectification portée au verso, et il vit nettement que la conviction du juge était faite. Il se borna donc à répondre « Bon, je ne sais pas, je ne m'explique pas. Ce que je puis vous affirmer, vous jurer, c'est que je suis innocent, que je ne connaissais pas la victime, que je ne l'ai jamais connue et qu'enfin toute mon existence passée dément une pareille accusation. » Je ne dis pas, fit le juge, mais en voilà assez pour aujourd'hui. On va vous relire votre interrogatoire et vous le signerez si vous voulez. Koch écouta distraitement la lecture et signa. D'un geste machinal, il tendit les poings au garde qui lui passa les menottes et sortit. Dans le couloir, son avocat lui dit « Je viendrai vous voir demain matin, nous avons à causer longuement. »« Je vous remercie, » dit Koch. Et il se laissa emmener par les petits corridors jusqu'à la sortie du palais. Seul de nouveau dans sa cellule, il se prit à réfléchir longuement, fortement. Il était loin, le reporter aventureux, prompt à la riposte, ingénieux et risque tout quand il fallait. Il commençait à se repentir d'avoir engagé une telle partie. Non qu'il eût la moindre crainte sur son issue. Il savait que d'un seul mot, il réduirait toutes les charges à néant. Mais malgré tout, il sentait le cercle menaçant se resserrer autour de lui et le doigt pris dans l'engrenage redoutable de la machine judiciaire. Il comprenait qu'il lui faudrait faire un gigantesque effort pour ne pas y laisser le bras tout entier. Il s'était imaginé jeter à la faveur de la ruse le trouble dans la police et l'acculer aux maladresses, aux imprudences. Il s'apercevait qu'il avait accumulé des charges telles contre lui que l'homme le moins prévenu n'aurait pas hésité à dire en le voyant « Ah, voilà le coupable !» La conviction du juge était naturelle, en somme. Qu'avait-il pu répliquer ? Rien. Il avait crié son innocence, et puis, l'accent de la vérité, cela se reconnaît à peu près comme la voix du sang. C'est quand il dit la vérité qu'un menteur a l'air de mentir. L'angoisse de l'inconnu s'ajoutait à ses craintes. Quelle charge nouvelle le juge allait-il relever contre lui ? Il n'avait su que répondre à des questions dont deux tout au moins étaient prévues. Quelle serait son attitude en face d'une accusation qu'il ne soupçonnait pas ? Nier, nier, contre toute évidence, contre toute vraisemblance, tel devait être son système. Quant à faire naître l'ombre d'un doute dans l'esprit du magistrat, il n'y fallait pas songer. Cependant, et il comptait là-dessus pour faire hésiter l'instruction, quand on en viendrait au mobile, il serait invulnérable. L'enquête révélerait qu'il ignorait même l'existence de ce forget, que personne dans son entourage n'avait entendu parler de lui. Or, on ne pouvait retenir prisonnier un homme au passé irréprochable, alors qu'on était hors d'état d'affirmer « Voilà pourquoi cet homme a tué ». Le lendemain, son avocat vint le voir. Il lui parla d'abord en termes vagues, lui demandant des renseignements sur sa vie, ses fréquentations, ses habitudes. Il lui fit préciser certains détails insignifiants, sans oser aborder nettement la question du crime. Au bout d'un quart d'heure de conversation, Koch, de plus en plus nerveux, lui dit « Voyons, maître, la vérité. « Vous me croyez coupable. » L'avocat l'arrêta d'un geste. « Oh, ne m'en dites pas plus, non, non, je vous en prie. Je tiens pour sincère, pour vrai, entendez-vous, pour vrai vos protestations d'innocence. Quelque lourdes que soient les charges relevées contre vous, je n'y veux voir que l'effet d'une terrible caprice du hasard. Votre système de défense est d'être innocent, vous êtes innocent, je le proclame. » Mais je vous jure, maître, que je vous jure que, sur ce que j'ai le plus cher au monde, que je suis innocent. En 7 minutes, coche eut la tentation folle de tout raconter. Mais quel avocat aurait osé le défendre après un pareil aveu? Il s'était condamné lui-même au seul système possible, tout nier, sans se préoccuper de la vraisemblance. Encore voulait-il que son avocat crût à sa sincérité. Il reprit avec passion: Ah, je suis innocent, je suis innocent. Plus tard, bientôt, peut-être, vous verrez, je vous dirai. Mais je vous crois, je vous l'affirme. Et Coche comprit à l'attitude, au regard de son avocat, qu'il déguisait sa pensée, et qu'il était convaincu lui aussi de sa culpabilité. Ils causèrent encore doucement, ne parlant presque plus du crime. Coche oubliait un peu tout ce que sa situation présentait de grotesque et de dramatique à la fois, et l'avocat essayait de déchiffrer ce qu'il y avait au fond de cette espèce d'insouciance blagueuse succédant à l'indignation remarquablement simulée du début. Dans l'après-midi du lendemain, on vint chercher l'accusé dans sa prison et on le fit monter dans la voiture cellulaire. Il crut qu'on le conduisait à l'instruction, mais le trajet lui sembla plus long que l'autre fois. Dressé autant qu'il le pouvait, il essaya de voir par les prises d'air, mais les lattes étant placées dans le sens inverse de celui des volets ordinaires, c'est-à-dire oblique de bas en haut, il ne put distinguer qu'un peu de ciel gris, triste et froid. La voiture s'arrêta enfin. Il en descendit et on le poussa rapidement, pas assez vite cependant, pour qu'il n'eût le temps d'apercevoir la Seine qui roulait une eau lourde et boueuse et de se rendre compte qu'il était à la morgue. Ah, c'est complet, se dit-il, la confrontation maintenant. La pensée de ce spectacle, dont la seule annonce emplit d'effroi les vrais criminels, ne l'ennuya pas. Quelle menace auraient pour lui les yeux éteints de ce pauvre mort? Il verrait sans peur ce corps qu'il avait contemplé par deux fois, la nuit presque palpitant encore de vie, et le matin déjà raidi et froid. Cependant, lorsqu'il se trouva dans la salle aux murs blancs, aux fenêtres hautes, où la lumière mettait des taches pâles sur des tables de marbre, il eut une sensation désagréable. Une odeur vague d'acide phénique et d'essence de thym, une odeur qui tenait de la pharmacie et du cimetière, flottait dans l'air humide. Et il s'imaginait sentir l'odeur terrible et fade qui se dégage des êtres morts depuis peu. Pourtant, il regardait avidement, s'efforçant de noter les moindres détails dans sa mémoire afin de pouvoir au prochain jour les consigner exactement. On le fit pénétrer enfin dans une pièce où une forme recouverte d'un drap était étendue sur une table. On leva le drap, et bien qu'il fût prêt à ce spectacle, il eut un mouvement de recul involontaire. Il ne reconnaissait pas ce cadavre, ou au moins au premier coup d'œil, il ne le reconnut pas. La mort, pour achever son œuvre, avait tassé, ratatiné les chairs. La face qu'il avait vue pleine et ronde était émaciée, des ombres grises et vertes s'y écrasaient, descendant des tempes au menton, comme si quelque pouce énorme s'était plu à modeler la cire jaune de ce visage. Quand il l'eut contemplé quelques secondes, le juge lui dit: Voilà votre victime. Encore une fois, mais je proteste contre une pareille accusation. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais connu. Et il songeait dire que la vérité a passé devant ses yeux et qu'à présent tout est fini. Qu'il ne reste rien de ce que cet être a vu, souffert, et qu'on pourrait me trancher la tête ici même sans qu'aucun frisson secoua cette chair inerte. La confrontation dura peu. Pour les magistrats, Coche sentait très à nier, encore à nier toujours, et il était à rien ne pas faiblir. On crut l'user par l'énervement, peine inutile. À toutes les questions, l'accusé répondait invariablement « Je ne sais rien ». Puis, après avoir accumulé charge sur charge, quand on lui demandait « Qu'avez-vous à objecter à ceci? Comment expliquez-vous cela ?» Il levait les bras et se bornait à murmurer « Je comprends pas. Oh, je ne m'explique pas. » L'instruction longue, difficile, n'amena aucune découverte intéressante. Il était impossible de briser la muraille mystérieuse qui, de son vivant, avait entouré Forget. Personne ne le connaissait, personne n'était au courant de ses habitudes. On ne put relever aucune charge morale contre Coche, mais il fut facile, par là même, de les lui faire supporter toutes. De ce que nul ne savait les fréquentations de la victime, on concluait simplement que Coche avait fort bien pu être en rapport avec elle, sans que qui que ce soit pût en témoigner. Quant au mobile qui l'avait poussé à commettre ce forfait, il n'apparaissait pas clairement. Une enquête minutieuse sur sa vie, ses ressources, n'apprit rien, sinon qu'il ne faisait pas la fête, qu'il payait exactement son terme et qu'on ne lui savait pas de liaison sérieuse. On ne put davantage établir la liste des objets dérobés boulevard Lannes, et le hasard sur lequel on comptait pour apporter quelques éclaircissements sur ce point ne se mit pas de la partie. Si bien qu'au bout de 3 mois, malgré tout le zèle de la sûreté, l'acharnement du juge et les recherches personnelles de tous les journaux de Paris, l'instruction n'était exactement au même point que le premier jour. C'est-à-dire que 2 charges précises et d'une gravité extrême pesaient sur Onésime Coche, le bout d'enveloppe et le bouton de manchette ramassé dans la chambre de la victime. À ces charges, dont l'accusé n'avait pu se dégager en aucun moment, s'ajoutait la présomption grave résultant de son brusque départ du monde et sa fuite à travers Paris, où l'on avait relevé en 3 jours son passage dans 3 hôtels différents sous de faux noms. Si l'on ajoutait à cela son attitude étrange à l'heure de l'arrestation, son essai de défense à main armée contre les agents, son retour clandestin à son domicile, on se trouvait en face d'une situation assez nette pour autoriser tous les soupçons et presque des certitudes. Le dossier, il est vrai, manquait de preuves morales. Les preuves matérielles les remplaçaient. L'instruction fut donc close, transmise à la chambre des mises en accusation, et l'affaire du boulevard Lannes fut inscrite au rôle des assises pour la session d'avril.